Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à tous et à tous, c'est vendredi 14 juin et on est avec vous pour le 10h midi. Bonjour Rémi.
Bonjour Valérie.
On est tous les deux aujourd'hui,
bah oui.
On va recevoir Jean-Pierre Pernaut. Voilà, gilet en week-end. Jean-Pierre Pernaut, où est Jean-Pierre? Jean-Pierre Pernaut qui présentera son JT de 13h aujourd'hui depuis le plus beau marché de France.
Donc, c'est le marché mystère.
C'est le marché mystère, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec lui dans un instant. Et puis on va parler livres avec Gérard Collard, on va parler du salon du livre de poche. Donc si vous aimez lire, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, eh bien c'est l'endroit où il faut aller ce week-end. Voilà. Et puis à partir de 11h, on parlera de la PMA. La PMA pour toutes, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre avant-hier dans son discours de politique générale. On parlera du réquisitoire contre Patrick Balkany. 7 ans de prison ferme requis. Est-ce que vous trouvez que c'est sévère? Est-ce que l'envoyer en prison sert à quelque chose? Est-ce que c'est un symbole? 0826 300 300. On attend vos réactions. Et puis le référendum également. C'était hier que vous pouviez participer à ce référendum pour ou contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Ça se transforme en référendum contre Emmanuel Macron avec des bugs assez étonnants tout de même sur ce site. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de réactions. On en parlera avec vous à partir de 11h. Et on commence avec les audiences.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Découvrons les audiences.
Les audiences, le carton bah hier,
Rémi. Oui, le carton pour TF1, oui. 4 747 000 téléspectateurs et 21,7% de part de marché pour Alice Nevers, la série française avec Odile Wilmain. Alors c'est 1 400 000 de plus que la semaine dernière, c'était la finale de The Voice, c'était un gadin. Mais c'est 500 000 de plus qu'il y a deux semaines, le précédent épisode d'Alice Nevers, donc TF1, oui. Est largement en tête largement des chaînes tête, généralistes. Oui. Devant M6, 2 670 000 téléspectateurs et 12,1% de part de marché pour la série américaine 911, le numéro des urgences aux États-Unis, qui marche très bien. C'est le même score que la semaine dernière.
Ouais, y a des fidèles téléspectateurs. Rappelez-nous, 0826 300 300. Carton TFM6, qu'est-ce qu'on avait dit?
Eh bien,
moi j'avais dit TF1, je me souviens.
Oui, mais c'est vrai. Peut-être vous aviez dit France 2 en deuxième, je ne sais
non,
plus.
J'avais non, pas c'est dit France 2, j'avais dit France 2. 3.
Alors nous étions tous les deux sur TF1M6.
Ouais, TF1M6.
Bon, on va dire que Gilles a perdu.
Voilà, il avait qu'à être là. Et puis on. Le gadin,
c'est pour France 3, justement, ouais. Qui n'a pas bien marché. 1 537 000 téléspectateurs et 7,3% de part de marché pour le film policier L'heure zéro avec Laura Smet et Chiara Mastroianni, pas de clients. 700 000 de moins que la semaine dernière, c'était aussi un film, Il faut sauver le soldat Ryan. France 3 nettement devancé par la soirée de France 2 sur les 70 ans du JT, qui a quand même réuni 2 millions de téléspectateurs, enfin 1 997 000 exactement et 9,9% de part de marché. C'est un score... moyen, mais à France 2, ils ne s'attendaient pas du tout à un carton. Ils craignaient un peu, c'est ce type de soirée qui est une soirée hommage, qui n'est pas forcément conçue
pour faire
grosse audience. 2 millions, ce n'est pas si mal.
Et regardez franchement le documentaire d'Hervé Brusini, c'est votre surprise peut-être.
C'est ma surprise, exactement. Vous le deviniez. C'est l'audience de son documentaire, Il était une fois le journal télévisé, 1 097 000 téléspectateurs et 12,1% de part de marché. C'est l'histoire des premiers JT. Ça a commencé à 23h10, ça s'est terminé à minuit 10. C'est un bon score pour cet horaire. Il faut dire qu'on en a parlé longuement hier. Le documentaire, il est plein d'anecdotes.
Franchement, regardez-le en replay. C'est passionnant de voir comment... parce que c'est complètement amateur, la façon dont ça démarre. Et puis les premières fake news, si on peut dire.
Bah oui, c'est quand même l'invention des fake news.
Et puis la détermination de ces hommes. Parce que c'était des hommes...
Ils lisaient quand même leurs commentaires en direct. À l'antenne pendant 5 ans, c'est dingue.
Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien.
Et puis du côté des talk-shows d'Access, égalité quasiment entre Quotidien et TPMP. 1 209 000 pour Quotidien sur TMC. Yann Barthès recevait Wilfried Ligné et les acteurs de la série sur Internet Scam qui marche très très bien. Et puis 1 205 000 pour Touche pas à mon poste sur C8. Cyril Hanouna recevait Enrico Macias, et je vous en parlais tout à l'heure, et Blaise Matuidi. Il faut dire que Touche pas à mon poste est terminé à 20h41. Ensuite, Cyril Hanouna a enchaîné sur le Prime TPMP en Tunisie, qui s'est arrêté à 21h53. Il a bousculé tous les horaires pour avoir les meilleurs rendus possibles.
Et alors, ça a donné quoi?
1 205 000 pour la première partie, c'est pas si mal, vous voyez.
Non, mais après, et parce que
705 000 ensuite, donc c'est pas bon.
On a Gilles qui nous dit bonjour hier soir après la quotidienne de Cyril Hanouna, je suis tombée sur le Prime en Tunisie, excusez-moi, quelle nullité, comment les gens qu'on apprécie... qu'on apprécie ce genre de programme. Un animateur passe son temps à humilier ses chroniqueurs. Bref, ce n'est pas la peine d'aller en Tunisie pour faire ce genre de spectacle lamentable.
C'est vrai, mais bon, ça amuse les fans zouz. Donc, vous voyez, on a encore 700 000 personnes qui ont regardé en prime. Il a fait mieux, mais enfin, la plupart du temps, à cette heure-là, la chaîne fait moins. Donc, c'est pas si mal. Et puis, c'est à vous à signaler 1 999 000 téléspectateurs pour Anne-Elisabeth Lemoine, qui recevait notamment Christine Ockrent et Patrick Poivre d'Arvor.
Pas un très bon score pour C'est à vous.
Ça baisse, mais tous les trois, talk-show d'accès avaient des scores assez faibles.
Jocelyne est en ligne avec nous. Bonjour Jocelyne.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez regardé, vous, hier ?
Eh bien, rien de ce dont vous venez de parler. Oui. J'ai regardé le 10 avec les anges gardiens.
Les anges gardiens sur TMC, c'est ça ?
Voilà. Oui, tout à fait.
Comment vous choisissez les programmes que vous regardez ? Vous zappez ? Vous avez un programme ? Comment vous faites ?
J'ai un programme, mais je ne le regarde jamais. c'est plutôt zapping.
D'accord.
Et puis voilà, je me suis dit, une petite comédie qui a longtemps... Je ne me souvenais plus tout à fait de tout, et c'est rafraîchissant.
Avec Depardieu et Clavier.
Ouais. Voilà.
Bon, 745 000, ça a pas mal marché.
C'est
un bon programme.
Ça vous a plu. On a un auditeur qui nous dit « Le doc de Brosigny, super, mais la soirée avant était un peu trop auto-congratulation entre mes ex-confrères et consoeurs. » Oui, c'est ce que j'ai vu. Moi, je n'ai pas regardé, mais c'est ce que j'ai vu sur Twitter. Beaucoup de gens ont trouvé que c'était un peu microcosmique, c'est-à-dire que c'est le microcosme qui s'auto-congratule.
Un peu. Il y avait quelques reportages qui étaient
bien. Il manquait Bruno Mazur dans toute cette grande fête. D'ailleurs, il a passé sa soirée à dire que le film de France 3 était super, qu'il y avait un très bon film sur Arte. Il doit y avoir un petit peu de...
Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde.
Alors, Laurence, bonjour, j'allais dire bonsoir. Bonjour, Laurence.
Oui, bonjour.
Alors, vous avez regardé France 2, justement ?
Oui, j'ai regardé France 2 et j'ai plus particulièrement apprécié la première partie plutôt que la deuxième.
Ouais.
Et notamment la première partie de la première partie où, en fait, on voyait bien les coulisses de tous ces JT et puis le ressenti des animateurs, enfin des présentateurs. Même. Ouais.
Voilà, donc vous n'avez pas trouvé que c'était trop entre soi de l'auto-con...
Pas la première partie, non. Après, oui.
Ouais.
Plus après, mais la première partie, on
sur les coulisses, ça vous a intéressé
bien, oui, il montrait notamment
les présentateurs, ça c'était bien.
Il montrait les boutons avec le nom des oreillettes, ça c'est l'oreillette Anne-Sophie Lapix, ça c'est l'oreillette Laurent Delahousse. Et c'était bien, ça expliquait bien comment ça fonctionne.
Quand il y a eu des gros événements,
exactement,
quand il y a eu le 11 septembre, quand ils étaient en direct, comment ils arrivaient à dominer leurs émotions pour quand même présenter. Enfin, c'est
Philippe Labro qui rappelait qui était présent au moment de l'assassinat de Lee Harvey Oswald par Jack Ruby. Donc c'est vrai qu'il y avait des moments au début, je suis tout à fait d'accord avec vous, Laurence, qui était très intéressant.
Valérie nous dit, moi j'ai regardé le reportage sur les casinos et les grands groupes comme Partouche et Barrière, donc je ne sais pas sur quelle chaîne c'était, je ne sais pas. Gérald est en ligne, bonjour Gérald, vous avez regardé quoi ?
Bonjour, j'ai regardé Les Maîtres de l'eau et puis Une zone d'influence.
Oui, Les Maîtres de...
Alors, oui, sur France 5, c'est un bon score d'ailleurs, plus d'un million de téléspectateurs.
Et ça vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a plu ?
Ah, énormément. D'un autre côté, c'est quelque chose que je connaissais déjà, j'avais déjà lu, donc le voir les photos, voir un peu... Après, c'était un peu lassant, donc j'ai regardé Une zone d'influence.
Vous avez regardé Zone d'influence, oui, et donc...
C'était d'actualité, hein, puisque ce sont les pesticides.
Absolument. Vous êtes sensible à ces sujets-là. Vous regardez les émissions qui concernent ces sujets.
J'habite dans le Médoc le Médoc, c'est une révolution avec la viticulture.
D'accord. Très bien. Merci Gérald de nous avoir appelés. Merci à vous. On va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias. L'instant zapping.
Alors, Rémi, Valérie, qu'est-ce qui a retenu votre attention ?
Plusieurs choses. Alors, dans cet avou, d'abord, Christine Ockrent et PPDA, on en parlait, étaient invités pour évoquer donc, les 70 ans du JT. Ils arrivent sur le plateau, échangent d'amabilité, puis vous allez voir que les égos reviennent vite et les piques ressortent.
Vous le faites très bien, mieux que personne, Christine. Hein, Madame, Messieurs, bonsoir.
Et pourtant, ça fait un certain temps que je n'ai pas pratiqué.
C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas.
Il y a une époque où on mettait mademoiselle aussi.
Ah oui ?
Oui, oui. Puis des gens disparus en circulation. Voilà.
Oui, oui.
Mesdames, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
Bonsoir,
vous l'avez fait comme ça, Patrick ?
J'ai dû le faire, oui. Du temps de Léon Citron qui faisait le week-end et je faisais la...
Tu as commencé juste après la guerre.
Pratiquement, entre les deux guerres. Même. Juste après toi, d'ailleurs.
Vous voyez, bon, un petit échange. Et toujours dans cet aveu, Christine Ockrent, première femme à présenter le 20h, raconte ses débuts, comment elle a été accueillie par ses collègues hommes. Nous sommes en 1981 et on ne peut pas dire que le concept de l'égalité homme-femme soit, à l'époque, comment dire, naturel.
Si parfois vous accrochez, c'est parce que vous n'aviez pas le droit aux répétitions, Christine, contrairement aux autres.
Non, ça c'est surtout pour le 20h, parce que le directeur de l'information de l'époque ne croyait pas une seconde que j'allais tenir la rampe, et donc il...
C'est un des groupes qui disait, elle ne va pas faire 8 jours.
Non, des groupes m'avaient choisi. Ah. C'est le directeur de l'information qui n'était pas d'accord. Et alors il se promenait dans les couloirs pour rassurer ces messieurs, en disant, c'est une lubie du vieux, elle ne fera pas 8 jours. Résultat, je n'ai pas eu une répétition, je ne savais même pas où était le studio. Et donc, oui, les débuts ont été un peu rock'n'roll. Mais ça, à FR3, comme on disait à l'époque, c'était Cavada qui, je crois, dirigeait cette chaîne à ce moment-là.
Oui,
et alors, il m'avait présenté à l'antenne en disant, textuellement, à partir de maintenant, Christine Ockrent fera des commentaires de politique étrangère, mais c'est une femme.
Il avait dit cette phrase.
Mais c'est une femme. C'est spectaculaire.
C'est incroyable quand même.
Les choses ont changé. Hein, elles jouent même au foot aujourd'hui, les femmes.
Exactement. Quelle magnifique transition, Valérie. Dans Quotidien, l'équipe de Yann Barthès revient évidemment sur le match des Bleus contre la Norvège. Mais à sa façon, le chroniqueur Azzedine Ahmed Chaouch s'est rendu à Nice et il a interrogé en anglais des supporters norvégiens. Enfin, interrogé, c'est beaucoup dire.
Speak English.
Évidemment, j'ai fait ma spéciale.
Can you repeat after me? Allez les bleus.
Allez les bleus.
Voilà.
Non.
Thank you. À trop tard. Allez.
Bon, voilà, il a piégé évidemment des supporters norvégiens. La femme était furieuse. Bon, c'était pas mal. Toujours dans Quotidien, à propos des matchs de la Coupe du Monde féminine, on a beaucoup évoqué le fait que les footballeuses étaient très différentes des footballeurs. Vous savez, on dit, elles sont beaucoup plus fraîches, pas de contestation avec les arbitres, pas de simulation sur les terrains. Elles sont plus simples, pas de langue de bois. Bah, vous allez voir, côté de langue de bois, c'est vraiment très différent. Ouais.
Femmes et hommes sont sur la même longueur d'onde. Première règle après une victoire, ne jamais s'enflammer.
Il faut savourer cette victoire, mais pas s'enflammer.
Non, on va pas s'enflammer, on n'a que 2 victoires.
Ensuite, prendre les matchs les uns après les autres, avancer match après match.
On prend les matchs les uns après les autres.
Il faut avancer match après match. On fait forcément match après match.
Travailler pour s'améliorer, pour se corriger.
C'est des choses qu'on a travaillées.
Travailler correctement.
Il faudra retravailler ça.
On travaille, on continue à travailler pour corriger nos petites erreurs.
Pour s'améliorer.
Il faut s'améliorer.
Et enfin, il faut y aller étape par étape. Le chemin est encore long.
On va y aller étape par étape.
C'est une étape de passé.
Mais le chemin, il est encore long.
On va continuer notre chemin.
Pour le chemin de la victoire, prochain match, c'est lundi à Rennes contre le Nigeria pour une place.
On avait Olivier Giroud, Amandine Henry, Hugo Lloris, Gaëtan Tinet, Wendy Renard, N'Golo Kanté, Gaëtan Tinet, encore Antoine Griezmann, Gridge Mbok et Eugénie Le Sommer. Bah voyez, question langue de bois. Les filles, elles ont rien. Elles ont appris.
Moi, j'ai jamais compris les interviews d'après match parce qu'il y a rien à dire, quoi, à part de dire on a bien joué, on a pas joué, on fera
étape,
mieux la prochaine fois.
C'est une étape incontournable et donc
garçon ou fille, ça change pas grand chose.
Bon, et puis pour finir, un petit retour sur Touche pas à mon poste, Valérie. Gilles, vous avez parlé hier de la séquence avec Pierre-Jean Chalençon entre Danse avec les stars et Touche pas à mon poste. Je vais vous remettre l'épisode en mémoire, puis juste après, je vous raconte la suite.
Pierre-Jean Chalençon est en passe de signer Danse avec les stars. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Voilà, parce que j'aime la danse et j'aime les stars. Mais Pierre-Jean Chalençon aimerait également faire TPMP. C'est ça, hein, Pierre-Jean Chalençon.
Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Pierre-Jean. C'est Pierre-Jean Chalençon.
C'est Abricot.
Monsieur Abricot.
Je connais pas son nom de famille, ça m'arrête déjà.
Oui, mais je ne sais pas. Moi,
oui, bah t'inquiète pas. Je te dis ça.
Famille, oui.
Donc, Ara, si éventuellement, nous, on n'y voit pas d'inconvénient, si toi, tu pouvais lui donner une dérogation, pour qu'il fasse également TPMP, pour faire les deux. Ça arrangerait tout le monde.
Donc ça, Valérie, c'est le son qu'on vous avait passé hier. Mais évidemment, on s'en doutait, TF1 n'a pas apprécié. Le site de Jean-Marc Morandini a expliqué hier soir que Pierre-Jean Chalençon était effectivement en possession d'un projet de contrat pour Danse avec les stars, mais qu'à la suite, immédiatement après Touche pas à mon poste, et notamment le coup de fil de Cyril Hanouna qui a beaucoup énervé TF1, TF1 a demandé à la production, alors la production de Danse avec les stars, c'est TF1 production, donc c'est pas très compliqué, de sortir Pierre-Jean Chalençon du casting, en fait, c'était peut-être même un objectif de Cyril Hanouna qui veut le prendre comme chroniqueur. Alors on va voir si peut-être il va peut-être se retrouver avec ni l'un ni l'autre non plus.
Oui, peut-être qu'il aura ni l'un ni l'autre, Pierre-Jean Chalençon. Mais c'est vrai que ça paraissait. Ou alors il savait déjà qu'il n'était pas pris.
Non, il avait vraiment. Il avait une proposition. Mais je pense que peut-être qu'il a une offre vraiment ferme de Hanouna.
Et Hanouna a joué là-dessus. Voilà. On ne saura pas cette.
On verra s'il est à la rentrée.
On fera peut-être une émission spéciale pour faire la vérité, la lumière sur cette étrange affaire. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Pierre Pernaut. Où est Jean-Pierre Pernaut ? Je vous pose la question.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est mon chouchou, c'est Jean-Pierre Pernaut. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Valérie, c'est gentil.
Bon, si on se connaît depuis longtemps et je vous aime beaucoup. Voilà, je profite de l'antenne pour vous faire une déclaration en direct.
C'est réciproque, ma chère Valérie.
Où êtes-vous, Jean-Pierre ?
Mais je ne vous le dirai pas, je suis sur un marché pour conclure aujourd'hui cette magnifique aventure de l'élection du plus beau marché de France, deuxième édition. Ouais. Et on va faire le journal télévisé, on dirait le journal de 13h en direct du marché qui a gagné, comme nous l'avions fait l'an dernier à Sanary-sur-Mer. Alors qui va succéder à Sanary?
Alors ce matin, j'ai regardé un petit peu effectivement sur Internet, ça s'active un petit peu partout. Le Progrès semble savoir qu'il y aurait vers Montbrisson des équipes de TF1, à La Réunion également. Donc où êtes-vous? Vous voulez
pas
nous le dire?
Pas.
Mais il y a du monde un peu partout.
On va dévoiler ça à 13h, on garde toujours la surprise, c'est amusant. Mais c'est vraiment l'épilogue d'une aventure qui a été chouette, qui a duré presque 3 mois.
Qui a commencé en mars, il y a 24 marchés, c'est ça?
Oui, il y a eu une mobilisation formidable dans tous les marchés qui avaient été élus par toute la presse quotidienne régionale dans les 22 anciennes régions métropolitaines et 2 outre-mer, aux Antilles et à La Réunion. Donc 24 marchés élus par les régions. Et puis, depuis 2 mois, tout le monde se bagarre avec des distributions de t-shirts, des commerçants qui demandent aux gens de voter. Voilà. Puis ça nous a permis surtout à l'antenne du journal de mettre en avant l'importance des marchés pour les Français.
Oui. Alors, Rémi Pernalet.
Oui, bonjour Jean-Pierre. Il faut voir que c'est une opération extrêmement suivie, puisque au 13 mai 2019, ça a démarré le 12 avril, il y avait déjà 1 225 000 votes. Vous expliquez dans ce journal, notre objectif, c'est 2 millions. Mais en fait, mardi 11 juin, il y a 4 177 072 votes. C'est beaucoup plus que l'année dernière, puisque il y avait 3 800 000 votes l'année dernière. Donc, c'est de plus en plus suivi.
Il y a eu un bel engouement et ça montre l'intérêt des Français pour les marchés. Vous savez, il y a 7 ou 10 000 marchés en France, alors que le petit commerce de proximité va pas très bien. Et ben, les marchés, eux, vont bien parce que ce sont des lieux de convivialité, ce sont des lieux où on sent les régions. Le marché où je suis, on est dans le marché. Si on m'avait amené ici les yeux bandés, on sait dans quelle région je suis parce qu'il y a des parfums, parce qu'il y a des produits qui ne sont que dans les marchés de la région où on est. Et c'est ça qui est formidable dans les marchés. On a des commerçants sympas, quel que soit le temps.
Ça sent le citron.
Il faut dire, Valérie, que le 13 mai, vous avez donné un classement intermédiaire. Et donc, les 4 premiers à ce moment-là, c'était Montbrison, Saint-Pierre, Dieppe et Audruic. Saint-Pierre qui était déjà dans les finalistes l'année dernière.
Saint-Pierre était troisième l'an dernier derrière Royan. Le premier, c'était Sanary. Royan était deuxième. Et Saint-Pierre La Réunion était troisième. Alors, cette année, c'est vrai qu'on a aussi des moyens techniques. Il y a des moyens techniques à La Réunion. Il y a des moyens techniques à Dieppe, il y a des moyens techniques à Montbrison, il y a des moyens techniques à Audruic. Alors, qui sont les 3 premiers, je ne sais pas. Et puis, dans les autres villes, on va suivre ça attentivement aussi, parce que tout le monde s'est bien bagarré.
Oui, alors les gens ont voté pour leur marché ou pour d'autres marchés? Vous avez un peu des infos là-dessus? Comment ça s'est passé?
Non, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Ça dépend des régions. C'est sûr que les marchés dans des régions touristiques ont dû attirer des votes de gens qui aiment aller en vacances à tel ou tel endroit. Dans l'intérieur, là où il n'y a pas forcément de touristes, ce sont les gens de la région ou les amoureux d'une région qui ont voté parce qu'ils aiment bien leur marché. Les amoureux des villes, c'est pas forcément les grandes villes qui ont le mieux voté. Il y a moins de chauvinisme, par exemple, régional en Ile-de-France. Alors c'est dommage parce que parmi les candidats, Il y a des beaux marchés. Il y a, parmi les candidats retenus, le plus beau marché d'Île-de-France cette année, c'était celui d'Aulnay-sous-Bois. Ouais. La mairie s'est bagarrée. Ils ont organisé des animations sur le marché pour faire voter les gens. C'était formidable ce qu'ils ont fait. Et pourtant, il n'y a pas de chauvinisme. Donc
ils n'ont pas gagné, on a compris.
Aulnay-sous-Bois n'a pas gagné. Je le regrette pour eux parce qu'ils ont été formidables.
Oui, mais alors c'est marrant parce que quand on tape effectivement sur Internet votre plus beau marché, on voit toute la presse régionale qui y va de son article sur son marché. Donc il y a le Progrès, il y a Corse Matin, on a Ouest France, la Voix du Nord, tous ont participé avec beaucoup de fierté à cette compétition.
Oui, oui, ça a été un partenariat de télévision TF1 13h avec toute la presse quotidienne régionale, qui sont nos partenaires aussi habituels avec nos correspondants dans les régions pour le journal. Mais là, la PQR a joué le jeu, a organisé les votes régionaux pour justement établir la liste des 24. Et voilà, ça va devenir un label, le plus beau marché, avec un tel succès. Je suis très content. Justement, en avant les commerçants, surtout. Moi, j'adore les commerçants sur les marchés, partout en France, quels que soient les marchés, qu'ils soient sélectionnés ou pas. J'adore l'ambiance qu'il y a sur ces marchés. C'est... Quand je vais quelque part, je vais d'abord au marché pour sentir le pays, pour voir si les gens sont en forme. S'ils ont des problèmes, c'est là que les gens discutent, c'est là qu'on se retrouve.
Absolument. C'était ma question, Jean-Pierre. M6 a lancé le village préféré des Français. Ça cartonne, ça se termine par un prime tous les ans. Est-ce que vous venez de lancer, c'est la deuxième année, le plus beau marché de France. Est-ce que ça pourrait se terminer ça aussi par un prime avec un peu de... Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Mais pour l'instant, on se contente du 13h, c'est bien, ça marche, on est content du 13h, des audiences du 13h sur cette opération aussi. Ça fait deux,
vous avez peur de faire moins si vous faites en prime que ce que vous faites dans le 13h ?
Pas forcément, mais bon, c'est pas forcément dans la logique de TF1. Peut-être un jour, je ne sais pas, Apprition et Gilles Bélisson décideront peut-être, ou Thierry Tulier. Mais là, on est très content de faire ces opérations dans le 13h avec Dominique Lagroux-Sampère qui m'accompagne depuis le début de l'opération, qui sera sur un marché aussi.
Parce que vous serez en duplex. On va en reparler dans un instant. Restez avec nous, Jean-Pierre Pernaut. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Et nous sommes avec Jean-Pierre Pernaut. Où est Jean-Pierre Pernaut ? Vous le saurez en regardant le 13h de TF1. Ah, il y a peut-être une petite cloche, non ? Il y a eu un truc, là, on a entendu un petit bruit, non ? C'est pas ça ?
Non, il n'y a pas d'indication.
Il n'y a pas d'indication. 4 millions de votes au total pour votre plus beau marché. C'est une très, très belle initiative que vous avez eue, Jean-Pierre. Donc, vous allez aujourd'hui décerner pour la deuxième saison le prix du plus beau marché. Vous serez également en duplex avec les deux autres, ceux qui sont montés sur le podium, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On sera le journal spécial en direct du marché qui a gagné et on sera en duplex avec les numéros 2 et numéro 3. Ça a été extrêmement serré jusqu'aux dernières heures de vote entre le 2 et le 3.
Ouais. Alors vous allez au marché, vous faites les courses ?
Ah, moi, je fais mes courses dans la région parisienne, mais c'est de là que m'est venue l'idée d'organiser ça, parce que on voit, il y a toujours un monde fou au marché. C'est là qu'on se fait conseiller par les commerçants. Ouais. On parle tellement en ce moment des circuits courts, de manger des produits de saison, de bien manger, de manger des produits bio, etc. C'est dans les marchés qu'on les trouve. C'est là qu'on discute avec des producteurs. On n'achète pas n'importe quel produit à n'importe quelle saison et on se fait conseiller. Moi, j'aime bien me faire conseiller quand je vais chez le poissonnier. Il me dit, ah, là, à la pêche ce matin, c'était celui-là. Tel fruit de saison, attendez la semaine prochaine. Voilà. Ouais. On se fait conseiller. Et puis, en plus, on discute avec les gens et on arrive à parler de leurs problèmes. C'est pour ça qu'au 13h, on est toujours proche des gens avec nos correspondants en région. Quand on veut connaître l'état d'esprit des Français, de temps en temps, on s'est moqué de moi parce que je faisais ça, on va sur les marchés. Ouais. Mais c'est vrai que c'est sur les marchés qu'on voit quel est l'état d'esprit. D'ailleurs, les politiques ne s'y trompent pas. Ils y vont pendant les campagnes électorales.
Absolument. Rémi.
Oui, alors, pour changer de sujet, vous avez participé hier à la soirée de France 2 sur les 70 ans du JT. Vous pensez que le JT est une espèce en voie de disparition ou en danger ? Il faut vraiment la défendre ?
Pas du tout. Je pense pas que ce soit une espèce en voie de disparition. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, depuis 30 ans, on nous dit « Oh, avec l'arrivée d'Internet, vous allez voir les journaux télévisés, c'est mort, c'est fini, c'est terminé. Ben, » Les grandes audiences des principales chaînes, ça reste les journaux télévisés de 13h et 20h, à TF1, à France 2, sur M6. Les chaînes d'info ont un beau succès aussi. Donc l'info et la télévision ont du succès. Et les journaux télévisés, qui sont identifiés, qui sont des rendez-vous à 13h ou à 20h, restent dans les habitudes des Français. C'est quelque chose qu'on regarde en famille. Et l'information, elle a été triée. Les chaînes d'info, on a tout. Tout arrive à la file. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la journée ? Ben, on aime bien, à 13h et à 20h, savoir ce qu'on peut retenir ou savoir quelle est la vie des gens. À 13h, on raconte la vie. Et je ne pense pas que les journaux soient menacés quand on voit les audiences d'aujourd'hui qui sont encore très très fortes et qui restent les meilleures audiences de toutes les chaînes.
Et d'ailleurs, est-ce que vous pensez que vous, votre tendance qui a été un peu de faire découvrir la vie et notamment le quotidien dans les régions, c'est quelque chose qui doit maintenant, qui s'est un peu généralisé, oui. Y compris dans les 20 heures, parce oui. On a l'impression que les Français veulent un peu moins de politique politicienne et un peu plus de sujets de vie de tous les jours, de proximité. Ouais.
Ben oui, mais c'est ce qu'on avait initié avec Valérie dans des émissions comme Combien ça coûte il y a très longtemps. Être au plus près de la vie des gens. On parlait d'argent, quand on parlait d'argent de combien ça coûte, c'était l'argent du portefeuille des Français. C'était pas ce qu'avait dit le ministre sur tel ou tel projet qui allait apporter 2 centimes de plus aux personnes âgées. À 13h, on a mis en place un réseau de correspondants en région permettant d'être au plus près de la réalité de la vie. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont moqués de moi il y a 31 ans quand j'ai lancé ça. Et puis maintenant, tout le monde a des correspondants en région. Et c'est vrai que maintenant, les 20 heures aussi s'intéressent à la vie quotidienne des Français parce que l'institution, les journaux télévisés, ce ne sont plus des relais d'institutions comme autrefois. Autrefois, on était des chaînes d'État avec un ministère. On l'a rappelé encore dans l'émission hier soir. C'est un ministère qui décidait ce qu'il y avait dans les journaux. J'ai connu cette époque. Mais ouais. Maintenant, les journaux télévisés sont des journaux indépendants. La concurrence joue entre les chaînes, y compris entre les chaînes privées et publiques. Donc, ça a apporté de la liberté à tout le monde, la privatisation. Et l'information est crédible. Et voilà, on essaie de faire notre travail au mieux.
Mais avec, mais avec de la défiance tout de même. Enfin, vous le ressentez aussi de la part des téléspectateurs, de la part des Français face à l'information. Oui. Et ils ont du mal à croire qu'un journal peut être indépendant du pouvoir.
Ben oui, mais n'empêche qu'ils ont du mal à le croire, mais on est le média auquel les Français font le plus confiance parce qu'au fil des années, ils remarquent que nous sommes indépendants, que nous sommes, on fait notre travail au mieux, mais on raconte la vie telle qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit.
On a pas mal critiqué les chaînes d'info au continu, notamment au moment de toute la crise du mouvement des Gilets jaunes, qui est quasiment terminé aujourd'hui, enfin en tout cas, qui n'est plus aussi important, disons. Vous partagez ce point de vue, c'est-à-dire que quand même, le fait de donner non-stop une visibilité énorme à parfois des mouvements qui ne sont pas si nationaux que ça, ça peut...
Au début, je pense que c'était bien que les chaînes d'info suivent ce qui se passait, parce que ce mouvement était quand même inédit en France. Bon, je rappelle de temps en temps que quand on regarde le journal de 13h, les Gilets jaunes n'ont pas surpris les téléspectateurs du 13h, parce que c'est la vie des gens, les difficultés des gens. J'en avais parlé déjà au président de la République quand je l'avais reçu à Berduy il y a 1 an et demi. On sentait déjà cette crise des Gilets jaunes monter, on ne savait pas qu'elle s'appellerait Gilets jaunes, mais j'avais interpellé le président avec des reportages de personnes âgées qui n'étaient pas contentes du tout de l'augmentation de la CSG, non compensée pour eux, avec des gens qui n'appréciaient pas du tout les limitations de vitesse à 80 km/h qui avaient été prises de manière nationale totalement stupide. Donc ça grondait déjà. Donc quand on s'intéressait aux gens, on savait que ça grondait. Et la taxe carbone, l'augmentation des taxes sur le carburant a fait exploser le truc au mois de novembre, mais on savait déjà que c'était chaud. Donc les chaînes d'info, je reviens à votre question, au début c'est bien de suivre ce mouvement qui était inédit, qui n'était pas politique du tout, et qui petit à petit quand même a été récupéré par des partis politiques d'abord d'extrême droite, puis d'extrême gauche, et puis il y a eu des exactions partout, donc ça c'est normal que les chaînes d'info le suivent. C'est vrai qu'au bout de 8 mois là maintenant, c'est vrai que les petites manifs du week-end n'ont plus aucun intérêt, c'est terminé ce mouvement.
Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on va voir à 13h alors? Vous allez dévoiler le nom de ce marché
On va remontrer quelques reportages pour montrer le travail des commerçants sur les marchés. On va être en duplex avec des gens, on va voir s'ils sont contents quand ils vont apprendre qu'ils ont gagné ou pas.
À Sanary, il y a eu un effet de ce titre de Pour le marché français. Moi, j'y suis allé, il est magnifique.
Par exemple, le maire de Sanary est avec moi. C'est-à-dire que le maire, sans vous dire où je suis, le maire de Sanary est venu parce que parmi les parrains de la deuxième année, c'est le Sanary sur mer qui a gagné en dernier, qui est parrain de l'opération cette année. Le maire de Sanary est avec moi et me disait encore hier soir que les retombées ont été énormes.
Ah ben moi, quand je l'ai vu, ce marché, il y a des grands panneaux avec plus beau marché de France, etc. Je comprends que c'est un impact.
Bon, puis c'est joli, Sanary, il y a des pointus, c'est un petit port magnifique. Ouais. Et la mairie s'était battue pour gagner ce titre. Ils ont gagné ce titre et c'est vrai qu'ils l'ont senti dès l'été dernier. C'est une ville touristique. Les gens venaient voir le plus beau marché de France.
Est-ce que vous aviez un marché pour lequel vous avez un coup de cœur particulier ?
Oh non, il y en a plein.
Il y en a plein, oui.
Je ne vais pas dire, oui, je ne peux pas vous dire lequel j'aime bien. Ouais. Il y en a plein.
Il y en a plein, voilà. Sinon, vous allez faire des. Vous allez vous fâcher, donc ce n'est pas le but.
Il fait beau, là.
Il fait beau, vous êtes.
Je ne vous le dis pas.
Est-ce qu'il fait très chaud?
Si je vous dis que je crains de chaud, c'est que je suis en Corse. Si je vous dis qu'il fait froid, c'est que je suis dans le nord-est.
Voilà.
Si je vous dis qu'il pleut, je suis dans le massif central.
Il est venu comment, le maire de Sanary?
Je suis à La Réunion.
Il est venu comment, le maire de Sanary? En voiture, en avion, en train. On essaye de savoir. Bon, on le saura à 13h, en tout cas. Merci beaucoup.
Voilà. On va faire un journal sympathique avec des commerçants à qui je veux rendre hommage.
Et plus de 4 millions de votes donc au total pour ce plus beau marché. Évidemment, vous recommencerez cette opération l'année prochaine, mais pour l'instant, on est impatient de connaître celui qui va remporter le titre du plus beau marché de France. Merci beaucoup.
Montbrison a l'air de tenir la corde quand même.
Merci. Vous pariez pour qui?
Montbrison.
Bah écoutez, on verra.
On verra. On sera devant le 13h tout à l'heure sur TF1. Merci
beaucoup.
Jean-Pierre. Merci
Bonne
à vous.
Matinée, au revoir.
Bonne
au revoir.
Matinée à vous. On passe aux 30 secondes pour convaincre.
Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Et alors, dimanche, je vous propose de prendre la direction du Futuroscope où se déroule la Fun Zone. Alors, c'est un jeu qui vous en met plein les yeux. C'est en tout cas ce qu'ils vous promettent. C'est une nouvelle émission exclusive sur Gulli. Donc, c'est plutôt pour les enfants, mais c'est un jeu familial. Deux familles qui s'opposent. Une est à Nîmes, l'autre à Toulouse. Et pour en savoir plus, on a téléphoné à Johan Faganelli, son animateur, et on lui a donné 30 secondes pour nous convaincre d'aller nous amuser avec lui dimanche à 19h sur Gulli.
Alors ce dimanche, vous l'avez dit, soit effectivement, il faut être sur Gulli pour assister à Fun Zone. Alors c'est un jeu, comme son nom l'indique, avec de la zone et du fun. Une zone de jeu, un parc d'attractions magnifique qui nous a ouvert ses portes pour que nos équipes, constituées d'une famille et d'un invité de marque, en l'occurrence ce week-end, ce sera Suzuki Cat, la youtubeuse, et Rose THR, la super tiktokeuse, qui donne le maximum dans les attractions pour tenter de faire gagner des places à l'association Les Petits Princes. C'est une association qui donne maximum pour les enfants hospitalisés. Donc soyez au rendez-vous, je compte sur vous.
Et voilà, c'était 30 secondes dimanche soir sur Gulli à 19h. Alors, ce week-end à la télé, Rémi, qu'est-ce qu'on regarde?
Ce soir, il y a Koh-Lanta.
Double 13, jeu, double la jeu, série la très qui plaît série, beaucoup à Alain Carazé. Donc, voilà. Eli Kaku, un documentaire 20 ans déjà qu'il nous a quittés. Donc Eli Kaku, ben alors 20 ans déjà.
NCIS sur M6. Et puis demain, il y a la chanson de l'année sur TF1 présentée par Nikos. Il y a la finale du championnat de France de rugby entre Toulouse et Clermont-Auvergne. Sud Radio se mobilise aussi.
Le prix de la loi. Avec Mimi Mathy, le prix de la loyauté sur France 3.
Donc ça va marcher aussi.
Échappée belle, la Sologne en majesté, NCIS sur M6 toujours. Donc,
Et puis la toute dernière des terriens du samedi sur C8, mais je pense que ça va se jouer entre France 2 et France 3, entre le rugby et puis le téléfilm avec
Mimi Mathy. Moi, je parie sur le rugby. Je pense que le rugby va l'emporter.
Bon, allez, moi, je dis Mimi Mathy.
Allez, on fera les comptes lundi.
Merci,
on se retrouve dans un instant avec Gérard Collard. On va parler du Salon du Livre de Poche, incroyable Salon du Livre qui se déroule ce week-end à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias et les livres le vendredi, parce qu'évidemment, il y a les livres avec Gérard Collard. Et c'est un petit peu la fête pour vous ce week-end, puisque Saint-Maur en poche, c'est là. Onzième édition de ce formidable, et je le dis en toute sincérité, parce que je ne vous aime pas trop, mais en toute sincérité, c'est la 11e édition de ce Saint-Maur en poche, donc un festival du livre de poche. C'est très bien parce que le livre de poche, ça ne coûte pas cher. C'est un succès à chaque fois incroyable. Vous avez chaque année de plus en plus d'auteurs.
270, plus 270 cette année.
270 cette année, donc il y aura parmi les stars Catherine Pancol, Pierre Palmade. Il y aura qui ? Il y aura Karine Gibel.
Il y aura tous les grands du polar
Raphaël
français.
Raphaël Giordano, tous les grands du polar français, oui. Et puis,
il y aura des étrangers, celle qui a fait Les Cœurs Cabossés.
Ron Rash.
Il y aura Ron Rash, il y aura Anna Hope. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est le Salon de Paris, mais en plus convivial, À Saint-Maur, quoi.
À Saint-Maur, c'est gratuit, tout le monde peut y aller, donc c'est en banlieue parisienne. Il y a des gens qui s'organisent pour venir depuis les quatre coins de la France.
De France, puis de Suisse, de Belgique, absolument. On a des Canadiens, enfin c'est extraordinaire. Et puis c'est un des rares moments où les lecteurs peuvent... C'est pas comme le Salon de Paris, vous savez, il n'y a pas de barrière entre les lecteurs et l'auteur.
Non, c'est vraiment ambiance un peu kermesse, ouais. Avec des grandes affiches
et les gens viennent pour voir des livres, enfin ils ont lu, ils viennent pas voir
c'est
les people.
C'est des vrais lecteurs. Voilà. Ouais.
Alors c'est vrai qu'on est un peu populaire, ouais. Pas assez littéraire
pas
pour
assez
certains.
Pas assez littéraire pour certains, puisque vous n'avez pas de subvention du Centre national du livre, alors que vous faites quand même beaucoup pour le livre, hein, et on fait depuis quelques
assez,
années.
On n'est pas assez... Voilà,
donc
on
le CNL, on n'est pas content.
Voilà.
Mais en tout cas, on se débrouille sans eux. Et c'est très bien. Donc demain, Saint-Maur, en région parisienne, c'est une radio... être partenaire évidemment de cet événement et on va parler de livres de poche. Il y a des choses formidables. Encore une fois, ça coûte pas cher. Vous avez loupé les livres ou c'est vrai que les livres sont très chers aujourd'hui. Vous allez en redécouvrir.
Oui, parce que c'est pas un salon où il y a que dédicaces. Hein. C'est un salon où on remet sur en présentoir et en présentation des livres de fond. On va essayer de faire découvrir.
Il y en a pour enfants aussi. Il y a des livres pour les enfants.
Plein de choses pour les enfants. C'est un des grands salons pour enfants avec plein d'animations. C'est extraordinaire. Puis les gosses, ils sont comme chez eux. Quoi. C'est quand on dit qu'ils lisent pas, là ils sont heureux, ils ont le sourire, c'est bien.
Ça réconcilie avec l'humanité quand on vient à Saint-Maur.
Oui, c'est vrai.
Un livre qui vient de sortir, qu'on avait beaucoup aimé, qui vient de reparaître en collection de poche, qui s'appelle L'Enfant du Danube.
C'est un monument, hein. C'est-à-dire c'est un des grands romans du 20e siècle. La plupart des gens, et je suis absolument d'accord, considèrent que L'Enfant du Danube, c'est au 20e siècle ce qu'étaient Les Misérables de Hugo au 19e. Alors on est dans l'Empire austro-hongrois s'est écroulé, on est en Hongrie, c'est l'histoire d'un petit garçon, sa mère l'abandonne, hein. Il va chez sa tante alors elle a un problème, elle est prostituée et tout, il va mendier, il va fuir, hein, parce qu'il a faim et tout, il va se retrouver dans la capitale, et dans la capitale, il va être employé à la fois dans un hôtel, alors l'hôtel c'est une concentration de toute la perversion, vous savez c'était cette époque entre 1920, c'était l'époque où les nazis vont arriver, et d'ailleurs en Hongrie à cette époque-là c'est vraiment une dictature, et puis il y a ce petit garçon qui va essayer de découvrir l'amour, il va découvrir la violence, la souffrance et tout. Mais alors ce qui est extraordinaire dans ce bouquin, c'est qu'il y a une sorte de résilience, c'est-à-dire qu'il va trouver le bonheur, c'est une recherche du bonheur, et il va trouver, c'est une sacrée leçon, parce que nous qui on est un pet de travers dès que on a un truc, voilà, et là il va, c'est tiré d'une histoire vraie, hein, parce que ce petit garçon à la fin il va s'enfuir aux États-Unis, il va raconter cette histoire, c'est un livre absolument extraordinaire, c'est vraiment j'ai l'habitude de dire un monument, mais là c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Faut remercier les éditions Folio, parce que c'était un livre qui était pas disponible depuis des années, et moi c'est un des livres qui m'a fait aimer la littérature, et sache ce que c'est que la littérature, mais c'était un grand moment de plaisir. Quoi.
Non, c'est un grand moment. C'est un livre vraiment... faut pas passer à côté. L'auteur s'appelle Janos... Alors, je ne vais pas arriver à le dire. S-Z-E-K-E-L-Y. Zekeli. Et c'est vraiment... c'est un livre que vous ne lâcherez pas. Je pense que vous ne pouvez pas être déçu par ce livre. Moi, je voulais vous signaler également en parution de poche, mais je vous en avais déjà parlé, Les Fantômes du Vieux Pays de Nathan Hill. C'est aussi chez Folio. Ça a reçu le prix des libraires. C'est un livre formidable, c'est un scandale aux États-Unis. Il y a une vieille un peu zinzin qui s'en prend au gouverneur d'un État. Enfin bref. Et donc ça fait la une de toutes les chaînes d'infos. Pendant ce temps-là, son fils avec qui elle est fâchée, il est prof de fac, lui son truc c'est de jouer en ligne. Donc il est dans son monde, dans ses ordinateurs. Et cette Calamity Parker, c'est sa mère. Et d'un seul coup, évidemment, la presse le retrouve. Il y a un éditeur qui lui propose d'écrire un livre sur sa mère. Il est fâché avec elle. Enfin bon, c'est assez compliqué à raconter. Une grande saga. Ça parle, ça va des émeutes de 68 à Chicago, parce que ça revient sur l'histoire de sa mère, à la vie des Américains. C'est, si vous aimez Philip Roth, si vous aimez les histoires des États-Unis, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé que c'était d'une finesse, ce livre incroyable.
Ça fait partie de ces romans, nous, qu'on aime bien. C'est-à-dire que c'est à la fois un roman, c'est-à-dire que c'est un raconteur d'histoire, mais en même temps, ça nous raconte l'histoire, quoi. C'est-à-dire que l'enfant du Danube, c'est pareil, c'est une partie de l'Europe, vous, c'est une partie des États-Unis.
Et puis il y a énormément d'humour, c'est très, 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 très acide et très, très drôle. Donc ça s'appelle Les Fantômes du Vieux Pays de Nathan Hill. Pour moi, je crois que c'est le meilleur livre que j'ai lu cette année. Ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé.
Après, Venise n'est pas en Italie,
Venise
vous
n'est pas
le
en Italie, oui, ça
de,
je savais.
Il s'appelle Yvan Calderac, c'est en livre de poche. On a été parmi les premiers avant que tout le monde en parle. Hein. D'ailleurs, il y avait des citations de nous-mêmes sur le livre pour bien prouver que c'était nous qui en avions parlé avant. Et parce que c'est un livre adorable, quoi. C'est-à-dire, en plus, vous allez voir le film parce que le film, il est c'est super. Ça, c'est un film qui retraduit bien l'ambiance du livre. Et puis, c'est l'histoire de. Moi, j'ai adoré, c'est l'histoire de cet ado hein, qui est issu d'un milieu modeste avec des parents brinque-zinque. Un peu, la mère est quand même extraordinaire. Elle est frappé. Hein.
Oui, il vit à Montargis.
Elle vit à Montargis. Il trouve qu'il ne fait pas assez branché. Enfin, elle le teint en blond pour être voilà, plus top. Et puis, il va tomber amoureux d'une adolescente. Oui. Le problème, c'est que l'adolescence, elle est issue d'un milieu très intellectuel et très riche. Parents pianistes et tout. Et
elle l'invite à Venise.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à Venise en avion. Quoi. Et donc, ils partent, parce qu'il faut dire, ils vivent en caravane. Mmh. Donc, ils vont se retrouver en caravane et c'est le choc de deux mondes,
c'est
de deux cultures.
C'est le choc des cultures. C'est drôle. C'est,
ah oui,
c'est,
mais c'est tendre en même temps. Oui, ça dit des choses.
Ça, c'est tendre et c'est très sympa. Ah, vraiment, si vous cherchez un livre divertissant et en même temps qui est intelligent, parce que c'est effectivement, ça dit des choses, c'est au livre de poche.
Ah hein, oui, c'est vraiment un pur régal.
Petit livre, il y a de l'humour, il y a de l'émotion.
Et puis il l'avait écrit comme un film, hein. C'est-à-dire que quand vous le lisiez, vous aviez le film un peu dans votre tête, et là, je ne sais plus qui a fait le film, a bien retransmis l'ambiance du film, et c'est plein d'élégance et de drôlerie aussi.
Alors vient de reparaître, je ne sais pas si on en avait reparlé, si on en avait déjà parlé, mais je vous le redis, puisque c'est en poche, Mrs. Hemingway, qui est l'histoire des femmes d'Hemingway, qui est un livre que j'aimerais redécouvrir et relire, tellement j'avais aimé ce livre.
Ça.
C'est en folio également, ils vont croire que j'ai des intérêts, mais non. Mrs. Hemingway, donc de Naomi Wood, et c'est l'histoire de chacune des femmes d'Hemingway, chaque période de sa vie.
Comment des femmes complètement différentes.
Des femmes complètement différentes, des femmes avec beaucoup de caractère et de tempérament. Et
comment, on va voir par exemple la dernière, on peut exister sans, quand Hemingway n'est plus là, et qu'en tant que femme, elle va avoir une grande, grande carrière. Je crois qu'elle va recevoir le prix Pulitzer, ça fait une grande journaliste. C'est vraiment, puis ça se lit, c'est comme un roman, c'est absolument fabuleux. Ça a été un des bons livres de ces dernières années.
Moi, je voulais vous signaler un livre, mais qui n'est pas en livre de poche, ça s'appelle Je suis le carnet de Dora Maar, de Brigitte Benkemoun. C'est là aussi un pur régal. Brigitte Benkemoun, elle est journaliste, elle a écrit plusieurs livres qui sont tous très très bons. D'ailleurs, vous pouvez aller les acheter en poche. En fait, c'est une histoire vraie. Son mari perd son agenda. Il veut retrouver le même. Il le trouve sur eBay. Elle reçoit cet agenda. Elle le regarde. Elle l'inspecte. Elle ouvre une petite fermeture éclair. Et là, elle tombe sur un carnet d'adresses. Et elle ouvre le carnet d'adresses par curiosité et voit la lettre A, Aragon. Après, elle voit Breton, Braque, Balthus, Chagall, Cocteau, Giacometti et Luard. Elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce carnet ? À qui il appartenait ? Et elle entreprend une recherche, elle a fait un travail colossal. Assez vite, elle arrive à trouver qu'il s'agit de Dora Maar. Et là, elle décide de raconter la vie de Dora Maar à partir de chacune des entrées, enfin pas chacune, mais un grand nombre des personnages qu'elle a rencontrés. Donc il y a aussi le coiffeur, la coiffeuse de Dora Maar, il y a un architecte, c'est fascinant. Et elle a lu, je crois, j'imagine, elle dit que son mari à un moment en pouvait plus, elle a dû lire tout ce qui se faisait parce qu'elle cherchait le lien qu'il y avait entre certaines personnes et Dora Maar. Et c'est vrai que parfois, bon, Breton, on imagine pourquoi, et Luard, la relation qu'elle a eue avec Picasso, qui n'est pas dans le carnet d'adresse, mais il y avait des noms un peu plus mystérieux.
Et en plus, elle a un truc, c'est que c'est une raconteuse d'histoire. C'est-à-dire que ça aurait pu être ennuyeux et simplement une sorte de biographie, mais voilà, c'est vraiment très intéressant.
C'est vraiment un livre, même
très
si vous ne connaissez pas Dora Maar, si vous ne connaissez pas Picasso,
c'est pas grave.
Rien que l'histoire qu'elle raconte sur cette femme qui est identifiée comme la femme qui pleure par Picasso, ça lui est resté toute sa vie, puis qui est une femme incroyable. Puis il y a une expo à Beaubourg.
Oui, si absolument, ça je ne savais pas, je vais y aller.
La connaître un petit peu mieux. Un autre livre.
Ah bah alors, on va vous parler, mais alors là, ce n'est pas un livre de poche, mais c'est un de mes coups de cœur, parce que c'est les livres, alors il n'y en a pas beaucoup comme ça, c'est ce que j'appelle le syndrome Harry Potter.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est des livres que vous donnez aux ados qui ne lisent pas et qui commencent à lire ce bouquin et c'est
ça,
foutu.
Ça va intéresser beaucoup.
Et alors ça s'appelle, c'est Irinae, alors ça s'appelle I-R-I-N-E avec un tréma. Il y a deux tomes, c'est de Val Rigel, c'est chez édition Slalom. Écoutez bien, c'est deux tomes. On est, le premier tome, on est en Sibérie, une expédition scientifique. Alors Irinae, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est chaman.
Irinae est le grand esprit du mammouth,
voilà,
c'est ça ?
Voilà, il y en a deux tomes. Hein. Le deuxième tome vient de paraître. Et alors ce petit garçon, comme il est chaman, il a un truc particulier, c'est qu'il peut parler aux animaux. Il comprend les animaux. Et ils sont en Sibérie et ils découvrent le cadavre dans la neige d'un mammouth. C'est une femelle. Et dans ce mammouth, il y a un petit bébé. Elle est enceinte. ils vont arriver scientifiquement à faire naître le mammouth. Et alors, c'est, alors les gosses sont complètement pris, hein, parce que le gamin, il a leur âge. Et c'est surtout, à l'époque de l'écologie, c'est un superbe livre sur le respect des autres, la nature, sur comment, pourquoi on consomme beaucoup maintenant alors que c'est peut-être pas nécessaire. Et il y a beaucoup de tendresse, d'amour, d'aventure. C'est irracontable parce qu'il y a plein de choses. Et c'est surtout une leçon de, oui, de manière de vivre, de se comporter. Et c'est magnifique. Oui. Et c'est vraiment...
Et ça plaît...
C'est incroyable. Oui, moi, j'ai été le premier surpris. Mais c'est pas que pour les ados, hein, parce que moi, j'ai lu le bouquin. Une fois que vous êtes dedans, c'est hyper intelligent. C'est plein de messages. Il y a, par exemple...
Il y a une énigme en plus. Ah bah, donc, y a une énigme
incroyable,
oui.
Parce qu'en plus, il y a un labo qui veut se prendre le petit...
Évidemment.
Bah oui, et là, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas ? Ça, c'est génial.
Et ben voilà, donc j'espère que... Donc ça s'appelle Irénée, I-R-I-N-E-I, tréma. L'auteur, pardon, s'appelle Val Reyel, R-E-I-Y-E-L. Donc si vous avez des ados, des 10-12 ans, c'est
sans
carton
problème.
Assuré.
Ah, c'est carton assuré, ouais.
Et vous pouvez le lire aussi. Donc j'espère qu'on vous a donné plein de bonnes idées de livres. Et puis Saint-Maur en poche, n'oubliez pas,
on vous attend.
C'est ce week-end. Il va faire beau. Il fait toujours beau. Vous avez
oui,
la
c'est
chance,
vrai, on a eu
vous êtes un peu chaman, non ?
Oui, on a un peu chaman. Ouais.
Donc il va faire beau, il y a plein d'auteurs, si vous voulez les rencontrer, puis surtout découvrir des livres, parce que c'est pas que des signatures, c'est une sorte de librairie géante avec des livres à 6 euros. Quoi.
Plein d'étiquettes et
d'affiches, absolument.
Toutes les couleurs.
Merci Gérard, allez, on se retrouve nous dans quelques instants pour la suite de l'actualité.